un tango, une danse, un baiser et un
sourire. Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Romain de Bec de Lièvre.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Des éclairs dans le ciel noir, le fracas assourdissant du tonnerre, une tempête qui mugit, un navire à la limite de la rupture, ballotté comme un couffin dans un perpétuel mouvement de roulis, un pavillon déchiré aux couleurs des Provinces Unies, c'est le Batavia, bateau de commerce à trois mâts, coque ventrue. Le 4 juin 1629, le Batavia donc, propriété de la Compagnie des Indes Orientales, fait naufrage à côté de l'archipel des Abruyos, dans l'océan Indien, au large de l'Australie. Une communauté de survivants s'organise sur ces terres désolées et sous la coupe d'un ancien apothicaire qui voit l'occasion d'exercer le crime et une tyrannie sanguinaire. Marc Biancarelli, votre dernier roman « Massacre des innocents » ouvre à nouveau cette page sombre de l'histoire maritime et de la barbarie universelle. Il est publié aux éditions Actes Sud. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir, merci de m'inviter.
C'est dans la nuit du 4 juin 1629 que le Batavia toucha Morning Reef, l'un des récifs du groupe des Abrolhos, à 40 milles à l'ouest de la côte occidentale d'Australie, très exactement. Le Batavia se plante sur le récif, la plupart des passagers débarquent dans les canots pour prendre terre sur les petites îles dénudées des environs, et quelques 80 personnes vont rester à bord. Comme souvent ça se pratiquait dans ces cas-là, on s'enivre pour oublier la misère, et l'alcool poussant aux pires excès, on va bientôt fracturer les coffres qui contiennent les richesses du Batavia. Le principal souci des naufragés sur les îles, c'est l'absence totale d'eau douce, comme toujours. Mais néanmoins, dans ce cas-là, on a réussi à tenir un moment avec des barriques d'eau qui étaient rejetées du navire éventré. Devant la situation absolument critique, le capitaine Pelsart, le pilote Jacobs et 45 autres passagers décidèrent de s'approprier les deux embarcations qui restaient et de quitter les lieux. Dans les premiers jours, plusieurs personnes moururent de soif, et puis on finit par trouver d'autres barriques et un peu de nourriture sous forme d'œufs d'oiseaux, de viande de phoque et de poissons qu'on capturait aux alentours.
Marc Biancarelli, on écoute une archive qui retrace donc ce naufrage, celui du Batavia. Cette archive date de 1996. Votre roman, je le rappelais en introduction, retrace cette histoire-là. Comment elle est venue à vous ?
Bien, elle est venue à moi bien avant 1996. Elle est venue à moi pendant l'enfance, parce que je me souviens d'avoir découvert cet épisode à travers des bandes dessinées qui parlaient des explorateurs, des grandes explorations, dans les années 70, donc quand j'étais enfant. Et puis ça a dormi en moi très longtemps, et il y a une dizaine d'années, j'ai lu un livre qui était un essai historique de Mick Dash, qui parlait donc de l'épisode du Batavia, du naufrage du Batavia, et c'était un très bon livre historique qui était jugé même assez définitif sur le sujet. Et longtemps, ça a un peu paralysé mon écriture, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais raconter après tous ces récits historiques détaillés qui ont été apportés. Eh bien, j'ai mis le temps de mûrir mon projet, j'ai mis le temps de voir quelle pouvait être une peinture romanesque de cette œuvre-là, de cet événement-là. Et puis un jour, j'ai voulu commencer à écrire une nouvelle sur le sujet, parce que je me disais que quand même c'était dommage de pas l'utiliser. Et au moment d'écrire la nouvelle, je me suis rendu compte que j'avais le roman en tête, que j'étais déjà bien plus avancé dans mon projet que ce que j'imaginais, et c'est parti comme ça.
Il s'agissait pour vous de quoi ? De combler les trous, un récit qui était un récit historique ? Il restait des trous que
non,
le roman pouvait s'emparer ?
Non, j'avais pas ce projet-là, moi. Moi, d'abord, j'étais complètement fasciné par l'histoire. J'étais complètement habité par ça. y avait quelques trous comme ça, ou quelques interprétations qui méritaient peut-être d'être réévaluées. Ça, c'était possible. Par exemple, dans le livre de Mikdash, on présentait Géronimus Cornelis, le fameux apothicaire qui a exercé une tyrannie sur les îles. On le présentait comme un psychopathe. Et moi, je trouvais que... Enfin, j'étais pas convaincu par cette thèse-là. Mais c'est pas vraiment que j'ai voulu démontrer qu'il n'était pas un psychopathe, c'est que simplement j'étais habité par l'histoire. Je crois que les romanciers, à un moment donné, ils veulent raconter une histoire, et toutes les histoires ont déjà été racontées, donc comment s'approprier de ces récits-là ? Là, en l'occurrence, c'était ça mon problème, c'était comment, de manière singulière, je peux reprendre ce thème-là qui m'habite, qui est en moi, qui provoque des images dans ma tête, qui me fait quelque part, qui me transporte, et donc j'ai mis longtemps à trouver le fil de mon écriture. Et puis à un moment donné, je crois que ce qui s'est imposé à moi, c'est les personnages. Les personnages, ils avaient quelque chose qui n'était pas exploité au niveau romanesque. Ils avaient un aspect encore vierge, m'a-t-il semblé. Géronimus, au début, je voulais pas trop l'exploiter. Je m'étais dit bêtement que je pouvais l'écarter, que ce serait pas lui le personnage principal du roman, ce serait plutôt Weberreis. Je voyais en Weberreis une espèce de héros potentiel dont on n'avait pas parlé finalement. Et héros de quelle manière ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, dans les conditions les plus extrêmes possibles, là où tout le monde capitule, là où tout le monde, à un moment donné, est assommé par la dimension de la violence, par la force des tragédies qui s'imposent, comment peut émerger un acte de résistance ? Voilà, c'était ça mon idée première. Je vais pas parler d'un sous-texte très très développé, c'est pas le cas. C'est d'abord une belle histoire pour moi, mais j'avais vraiment cette idée que ce serait Weberreis le personnage qui incarnerait cette idée-là, et je voulais d'un personnage qui soit un combattant, un résistant face à la tyrannie, mais qui ait ses fragilités, qui ait ses parts d'ombre aussi. Je voulais pas d'un personnage monolithique complètement. Et voilà, et c'est lui qui m'a porté au départ. C'est vraiment l'idée de dépeindre ce personnage. Et puis ensuite, j'ai commencé à parler de Lucrezia, j'ai commencé à parler de Géronimus, et je me suis rendu compte que ces personnages, ils prenaient leur place naturellement. Ils m'embarquaient avec eux. Et ils me faisaient dire des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé en élaborant mon projet d'écriture.
Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on a la liste de tous les gens avec leurs noms, leurs vrais noms, qui sont les noms historiques, qui ont vécu, donc qui ont organisé la survie sur cet archipel. Et est-ce que dès le début aussi, il y avait l'idée d'écrire un roman de la survie ?
J'avais cette idée-là. J'avais l'idée de... C'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Alors pas dans l'idée de faire une Robinsonade, pas dans l'idée de simplement... poser le cadre habituel du naufrage, de l'isolement, etc. Mais j'avais depuis longtemps cette idée, parce que je suis quelqu'un qui est proche de la nature, je suis quelqu'un qui a grandi, je dirais, dans une île où il y a des paysages invraisemblables, qui inspirent énormément, où on est toujours confronté à la beauté, mais à la dureté aussi de la nature. J'avais vraiment depuis très longtemps le projet d'une écriture sur la survie. Et puis j'aime bien aussi la littérature américaine qui parle, le nature writing, tout ce genre littéraire, l'école du Montana, ça me plaît beaucoup. Et donc j'avais envie de marcher un peu sur les pas de ces auteurs-là. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ce serait autre chose comme roman, que ce serait pas simplement un écrit sur la survie, un écrit sur la nature, qu'il y aurait quelque chose à dire sur la nature humaine, sur le mal, sur la confrontation à l'oppression, sur les démons intérieurs qui peuvent nous paralyser ou ou faire de nous des gens plus forts au moment de se confronter au mal, quoi. Et puis aussi cette idée, parce que l'histoire se passe au XVIIe siècle, elle est dans... On peut l'évoquer, hein. Elle est dans une période historique très troublée par les guerres, la guerre de 30 ans, les conflits de religion, ces choses-là. J'avais envie de parler aussi d'évoquer le thème de la barbarie, qui est quand même quelque chose qui me hante depuis assez longtemps.
Pour moi, la peinture n'est pas juste un caprice ou un désir de créer un joli objet. C'est aussi une image qui participe de la pensée et de la société d'une époque. Donc effectivement, j'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la peinture, mais toujours dans cette optique, non pas la peinture en elle-même, je ne suis pas intéressé par une analyse qui serait strictement formelle, les rapports des couleurs ou des formes, mais par ce qu'elle apporte avec elle, compensée. Ainsi qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'art européen, on se met soudain à peindre des individus humains. Et cela, on ne le faisait pas auparavant, cela ne peut se faire qu'à une certaine époque, au XVe siècle, parce que une certaine pensée, une certaine société aussi se crée qui le rend possible. Donc, dans la peinture du XVIIe siècle, il y a aussi une pensée. Et mon petit livre sur Rembrandt est effectivement essaye de montrer quelle philosophie de vie, au fond, exprimait Rembrandt, plus particulièrement à travers ses dessins, parce que on ne le sait pas assez, mais Rembrandt a fait peut-être autour de 300 ou 350 tableaux de peinture, il a fait 240 gravures, mais il a fait près de 1000 dessins. Et ces dessins sont un peu comme un journal intime où il a noté tout ce qui le frappait. Donc, en essayant de les déchiffrer, ces dessins, on accède aussi à sa manière de vivre, à sa pensée.
Marc Biancarelli, on écoute une archive de Tsvetan Todorov qui parle de la question de la peinture hollandaise. Et la peinture est centrale, enfin très présente dans Massacre des Innocents, ne serait-ce que par le titre, qui est donc le titre d'un tableau. Et votre roman campe et évoque un certain nombre de peintres, et notamment campe la figure de Torrentius, et parle de l'auteur du tableau Le Massacre des Innocents, qui s'appelle Cornelis van Aarlem. Comment c'est opéré? Est-ce que c'est à la faveur de l'écriture de ce livre, à travers Le Naufrage du Batavia, que vous avez découvert la peinture hollandaise, ou est-ce que c'était quelque chose qui existait déjà pour vous?
Non, ça n'existait pas tant que ça, il faut dire les choses. Je suis un peu un profane et je veux pas jouer à être autre chose. Mais quand j'ai commencé à écrire et à nourrir mon écriture de recherche esthétique, je dirais, inévitablement, ce qui s'est imposé, c'était la peinture du 17e, la peinture hollandaise. Alors, pas que hollandaise, parce qu'il y a aussi Velázquez qui apparaît à un moment donné, mais avec le siège de Breda. Mais tout de suite, les peintres hollandais ont été tellement des compagnons de cette écriture que j'en ai fait même parfois des personnages. Ils sont intervenus comme des personnages dans le roman. Tellement c'était évident que toute l'esthétique allait tourner autour de ça. Et à tel point qu'à un moment donné, même mes chapitres, j'avais du mal à les appeler chapitres, et je les ai appelés tableaux, et c'est resté. C'était un plan de travail au départ, et puis c'est resté tel quel. Je me voyais plus retoucher ça. Et je commençais très souvent l'écriture avec l'idée de mon récit, bien sûr, de ce que j'allais suivre dans mon récit. Et puis, je me disais, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de nourrir ça, d'une œuvre, de quelque chose qui soit complètement pictural, visuel, etc. Et je passais d'un tableau à l'autre, et très souvent je trouvais le tableau qui allait me débloquer l'écriture. Et j'ai commencé comme ça à décrire les tableaux. Avec les mots d'un profane, je prétends pas du tout faire œuvre d'explication de l'histoire de la peinture ou ces choses-là. Je ne suis pas du tout capable de ça, mais j'ai quand même quelques goûts en matière de peinture. Et là, je me disais que ça pouvait être abordé différemment. Ça pouvait être abordé comme presque la matière d'un roman. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce livre, au-delà de la Robinsonade dont on parlait tout à l'heure. Je voulais vraiment que ça soit autre chose. Je voulais vraiment que ça passe dans, que ça narre l'histoire d'une culture à un moment donné. Alors, je suis pareil, je suis pas un grand spécialiste de la Hollande ou des Pays-Bas ou des Provinces Unies de l'époque, mais je savais confusément que à travers leur mode d'expression, notamment la peinture, je réussirais à pénétrer dans l'esprit des gens de cette époque et de mes personnages, bien sûr.
Il y a toute une scène, enfin plusieurs pages, où vous décrivez de manière assez longue le massacre des innocents, donc de Cornelis van Haarlem, un tableau qui existe réellement. Quelle expérience ça a été pour vous, justement, littérairement ?
Je me suis laissé emporter par quelque chose que je n'avais jamais fait. Et avec les mots d'un écrivain, pas les mots d'un spécialiste de la peinture, mais en essayant de me mettre dans la peau de mes personnages face à ce tableau-là. Le tableau de Cornelis van Haarlem est découvert dans l'atelier de Torrentius par Géronimus Cornelis, qui est quasiment un homonyme, si on veut, du peintre qui était de Haarlem lui aussi. Et à un moment donné, il éprouve comme une révélation face à ce tableau-là. Il ressent la possibilité d'une grande œuvre pour lui. C'est-à-dire, il voit un massacre, il voit des choses abominables. Et comme lui, c'est une sorte d'être déchu, c'est une sorte d'infâme, ou en tout cas, c'est un infâme en devenir. Son destin semble déjà tracé. Il voit la possibilité de trouver le sens de son existence à travers la réalisation d'une horreur, quoi. Et le tableau en lui-même, alors il y en a beaucoup des tableaux sur le massacre des innocents, mais celui-ci, il a vraiment quelque chose d'assez luxuriant, d'assez, presque lubrique, quelque chose d'obscène par moment. Et ça peut correspondre à l'état d'esprit dépravé de Géronimus à ce moment-là. Et c'est pas étonnant, enfin, c'est pas du tout un fait historique, c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est pas étonnant si on peut imaginer que ce tableau-là atterrit à un moment donné dans l'atelier de Torrentius, parce que lui-même était un être assez dépravé, assez critiqué pour ses déviances pour l'époque, hein. Il fréquentait avec les Rose-Croix, c'était un hérétique, revendiqué, assumé, puissant, donc il se pensait au-dessus de des lois. Et donc on peut imaginer que la force du tableau va inspirer réellement l'œuvre à venir, le grand œuvre à venir d'un être maléfique comme Géronimus.
Il y a aussi l'idée de que le peintre devienne un personnage, et un personnage de fiction, puisque la connexion entre Torrentius le peintre et Cornelis, donc l'ancien apothicaire sanguinaire qui va exercer des massacres et qui sera naufragé sur le Batavia, se sont rencontrés effectivement. Il y avait l'idée aussi de faire des peintres des personnages romanesques qui ne sont pas que des artistes, qui seraient dans une dimension aérienne éthérée, et les mettre dans le réel, dans des situations.
Mais il n'y avait pas l'idée au départ, en tout cas. Mais ça s'est imposé au fil de mon écriture. Il n'y a pas que Torrentius qui est un des personnages. Il y a Franz Hals. Il y en a d'autres qui apparaissent comme ça, de manière parfois succincte. Mais aussi parce que j'aimais bien ce foisonnement de personnages. À un moment donné, dans le roman, je trouvais que ça correspondait à l'aspect pictural, esthétique du roman aussi. Puisqu'on parlait de peinture, on parle de peinture, j'ai vraiment l'impression que c'est des touches comme ça qui apparaissent. C'est des caractères qui s'imposent, puis qui disparaissent, qui sont atténués, qui sont... voilà, c'est une espèce de composition picturale comme ça, dans mon esprit. Après, je sais pas si le lecteur le verra comme ça, mais moi, je le ressens comme ça. Mais par rapport à Torrentius, c'était évident qu'il soit un des personnages du roman. À partir du moment où j'avais décidé de ne pas rester sur les îles et de réinventer un passé à Géronimus, à Haarlem, quel mentor, et puis en plus ils se sont connus réellement dans l'histoire, hein, c'est pas moi qui l'invente, mais quel meilleur mentor que Torrentius, ce peintre hérétique, dont on connaît pas beaucoup d'œuvres, on connaît une œuvre de lui.
Les autres ont été supprimés.
Les
brûlés.
Autres ont été brûlés, et on a une mention d'un autre tableau qui s'appelle « Femme qui pisse dans l'oreille d'un homme », et là j'ai eu l'impression... C'est mon moment mystique de l'émission. J'ai eu l'impression que quelque chose de supérieur à moi s'était joué, parce que j'avais écrit une scène où Géronimus se faisait lyncher dans la rue, et une femme, une matrone, lui pissait dans la bouche.
Ça, c'est vous qui l'inventez?
C'est moi qui l'invente. Et mon amie et traductrice hollandaise Marilène Averreus, avec qui je travaillais quasiment en permanence quand j'écrivais le livre, me dit « On a une nouvelle mention d'un tableau de Torrentius, ça s'appelle « Femme qui pisse dans l'oreille d'un homme ». Donc moi je n'avais plus qu'à faire tourner la tête à Géronimus pour que ce tableau vienne épouser le roman, quoi, vienne s'inscrire dans le roman, et du coup ça devient effectivement le nom du chapitre. L'intitulé du chapitre, et j'avais écrit cette scène avant d'imaginer qu'il existait un tel tableau, et puis alors ça aurait pu s'appeler je ne sais pas comment, d'un million de façons, et ça s'appelle comme ça, voilà. Donc là j'ai dit, il s'est passé quelque chose, c'est Cornelis qui parle à mon oreille quand j'écris, hein. Je me suis senti habité. Bon, je crois pas du tout à ces choses-là, mais allez savoir.
Le temps d'éclairer la pièce, et ils se trouvèrent enfin dans l'antre le plus mystérieux de l'iconoclaste créateur. Il y avait bien là des pinceaux et des brosses, et de multiples torchons en boule qui gisaient sur des tréteaux tachetés d'huile et de peinture. Des bols et des soucoupes étaient posés sur des bancs et des commodes de tailles variées. Et des vessies de porc, où étaient conservés toutes sortes de fluides, étaient accrochés au mur. Quasiment au centre de la pièce, des chevalets de différentes dimensions, dont l'un de taille moyenne, accompagné d'un tabouret permettant au maître de travailler, les autres, un peu moins hauts, où reposaient des toiles dont il faisait parfois des copies. D'autres toiles, vierges ou déjà recouvertes de diverses ébauches, étaient également entreposées un peu partout dans la pièce. C'est le tableau sur les petits chevalets, et qui allait d'évidence servir de modèle, qui attira inévitablement l'attention de Géronimus. Il se demanda d'ailleurs comment une œuvre aussi grande avait pu pénétrer par les escaliers exigus qui menaient à l'atelier. Puis, comprit qu'on avait dû le hisser à l'aide de poulies pour le faire passer par les hautes fenêtres. Il s'approcha, un chandelier à la main, et découvrit ce dont il s'agissait. « Le massacre des innocents, » dit Torrentius. « J'en ai obtenu le prêt, moyennant finance, auprès de l'Académie. Et vous voulez savoir qui en est l'auteur ?» Votre quasi-homonyme, Cornelis, Cornelis, Cornelis von Harlem, c'est de lui. Un pur génie, influencé par l'art ancien et les écoles italiennes. Mais un génie, oui, incontestablement. Vous allez faire une copie de ce tableau. Je m'en inspire, pour une variante, mais sans tout ce maniérisme. Une version réaliste, voyez-vous, quelque chose de plus outrageant, de moins baroque aussi. Comme si l'on vivait le massacre de l'intérieur. Je voudrais transformer cela, comment dire, en horreur scandaleuse.
Marc Biancarelli, on écoute ici un extrait de votre roman « Massacre des innocents » lu par Oriane Delacroix, où apparaît cette question. On est dans l'atelier du peintre, on a donc cette rencontre entre ce personnage de Cornelis et Torrentius, le peintre, et il y a ce moment de révélation que vous évoquiez tout à l'heure, où il se rend compte qu'il pourra faire quelque chose dans le monde réel, que Cornelis pourra exécuter quelque chose dans le monde réel qui a à voir avec le massacre des innocents, et donc avec le mal. Est-ce que vous l'avez pensé effectivement comme une révélation?
Ah oui, oui, oui. C'est qu'à un moment donné, il trouve, il y a des images qui se révèlent à lui et qui le révèlent dans ses potentialités. Il est face à un tableau du mal, de l'abject, et c'est comme s'il découvrait, et puis en plus il y a les mots de Torrentius qui l'incite un peu derrière, c'est comme s'il découvrait sa nature profonde, ou en tout cas ce qu'il est capable de faire, ce que lui peut réaliser. Il faut comprendre, moi je le vois comme ça le personnage, c'est quelqu'un qui est abîmé, dévasté par son destin et sa condition sociale. C'est un apothicaire qui a fait faillite, et faire faillite dans les provinces unies au XVIIe siècle, c'est une des choses les plus honteuses qui puissent arriver. Donc, il est fini, ce personnage. Il vit avec une femme qui est dévorée par la syphilis, Il a un bébé malade qui va mourir. Bon, dans le roman, il le tue. Et c'est un être déchu. C'est un être que qui n'a plus aucun espoir à un moment donné de rattraper, de se rattraper, de se réparer, de se reconstruire. Même sa fuite à bord du Batavia, on pourrait l'interpréter comme une tentative de se racheter ou de reconstruire une vie. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est simplement aller se faire oublier du monde. C'est simplement disparaître. C'est simplement porter jusque dans les coins les plus reculés de la terre sa propre infamie, qu'on ne parle plus jamais de lui. Et donc, ce personnage n'aura plus jamais rien de positif à construire. Et même sur le navire, il passe son temps à comploter. Il ne fait que ça. Il passe son temps à déblatérer, à essayer de convaincre le reste de l'équipage, soit d'une sédition, soit de suivre des préceptes hérétiques, etc. En fait, il délire. C'est quelqu'un qui est délirant. Et à un moment donné, se révèle à lui la possibilité que son accomplissement se fera par le mal. En plus, ça, c'est Mikdash qui nous renseigne là-dessus. C'est qu'il appartenait à des obédiences religieuses qui, à l'époque, je me souviens plus trop les noms, désolé, c'est un peu complexe, même dans ma tête. Mais il appartenait à des obédiences religieuses qui étaient vues comme hérétiques, justement parce qu'elles disaient que le mal aussi était l'accomplissement de Dieu. Et que donc, finalement, on pouvait se soulager quelque part en donnant une charge divine à l'œuvre la plus néfaste qu'on puisse porter. Donc, c'est un être déchu, mais qui a en plus culturellement en lui la dimension de donner du sens au mal et de s'en accommoder. Voilà, je crois que c'est comme ça que je le vois, ce personnage. Et inévitablement, il peut, face au tableau, éprouver ça. Moi, je l'ai pas analysé comme un philosophe, tout ça. Quand je suis tombé moi-même sur le tableau de Cornelis van Aarlem, j'ai éprouvé la même chose. Si j'avais été dans la peau de Cornelis, de Géronimus Cornelis à ce moment-là, je me dis j'aurais pu éprouver ça. En étant au fond du trou, en étant à ce point abîmé, dévasté par la vie, pourquoi pas ? Voilà.
La question que ça pose aussi, c'est la question du pouvoir d'une œuvre. D'influencer ou de commanditer quelque chose ou de créer des comportements.
Oui, vaste question. C'est pour ça qu'on a longtemps cherché à ne pas mettre Mein Kampf dans toutes les mains, par exemple. Œuvre au noir, hein, aussi, bien sûr. Ouais. Ou œuvre damnée, c'est tout à fait possible qu'une œuvre ait une influence sur quelqu'un. Moi, ça, j'en suis convaincu. Sinon, je ferais pas de la création. Je pense que les œuvres se répondent, les œuvres se nourrissent les inspirations, et nos inspirations, on est allé les puiser aussi dans l'esthétique des autres, dans la création des autres, toujours. Donc oui, ça, j'y crois. Après, je ne sais pas si ça change le monde, mais si ça change le monde à petite échelle, ça peut avoir des rebonds très conséquents.
Et donc Cornelis se trouve aspiré après cette révélation. Et il y a un moment où on a vraiment l'impression dans le roman où il est dans une phase extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que la moindre personne y croise un aubergiste à un moment qui lui parle, qui critique la société. Et qui finalement, tout ce qu'on peut lui dire ne fait que conforter son idée que faire le mal, enfin assassiner par exemple, est finalement légitime.
Il se passe quelque chose quand il rencontre l'aubergiste. Je vais le dire, je vais le révéler, parce que moi ça m'a beaucoup amusé. Moi c'est un livre qui m'a amusé aussi quand je l'écrivais. En fait, il quitte Harlem, où il est déjà en disgrâce, pour aller s'engager dans la Compagnie des Indes, à Amsterdam. Et, chemin faisant, il est obligé de passer par un village qui s'appelle Sloterdijk. Or, moi, Sloterdijk, pour moi, c'est le philosophe Peter Sloterdijk. Donc, celui qui avait écrit « Règles pour un parc humain » dans les années 90, qui avait fait assez scandale en disant « Il faut arrêter de parlait d'éducation, parlons d'élevage. Enfin, il était très provocateur. Peter Slaughter dit qu'à un moment donné, il était, si je me souviens bien, même de mes quelques notions légères de philosophie, il était le contradicteur de Habermas, théoriquement. Enfin, les Allemands avaient aimé Habermas et ils se découvraient à adorer détester tous Peter Sloterdijk. Bon. Et donc, Peter Sloterdijk, je l'ai lu. C'est un des rares philosophes que j'ai lu dans le texte quand j'étais plus jeune et qui m'a amusé autant qu'il m'a intéressé et fasciné. Justement, à cause de cette œuvre provocatrice. Il parlait d'un monde totalement post-moderne avec des règles qui n'étaient plus celles du livre, justement. Il disait, arrêtons de faire comme si nous étions encore des gens civilisés. Nous sommes des gens qui ne sommes plus civilisés puisque nous sommes après la civilisation du livre. Voilà. Et à un moment donné, il y a un écho entre Sloterdijk et Hieronymus Cornelis, cet être déchu, cet être qui est justement en errance et en fuite et qui va donner du sens au mal, qui va à un moment donné chercher à interpréter une œuvre maléfique comme étant quelque chose de probable et d'assumable pour lui. Et bon, il passe par un village qui s'appelle Sloterdijk. Ben moi, j'ai inventé l'auberge de Peter Sloterdijk, c'est tout. Il ne fait que discuter avec le philosophe contemporain. Alors, c'est un anachronisme qui m'a fait rire en l'écrivant. Et puis, finalement, on peut lire le texte, ça prend du sens, parce que ce sont des mots qui ont, entre le parcours d'un être déchu du XVIIe siècle et un philosophe qui analyse notre monde postmoderne, eh bien, on trouve des similitudes. Le discours de Sloterdijk, je l'ai pas inventé. J'ai été puisé carrément dans Critique de la raison cynique, enfin des choses qu'il a écrites réellement. Voilà. Après, je les ai un peu modifiées pour les besoins du roman, mais. Et puis c'est des passages assez courts, j'ai pas voulu faire un traité philosophique, mais c'est un dialogue entre eux. Mais réellement, voilà, je trouvais qu'il y avait des échos invraisemblables. Et là encore, un signe, pourquoi le faire passer par Sloterdijk ? Parce que peut-être je voulais faire cette rencontre entre les deux.
C'est drôle parce que oui, on a l'impression qu'il y a une forme de jubilation aussi, parce que c'est le premier roman historique au sens où vous vous emparez d'une période plus éloignée, le XVIIe siècle.
Il y a une énorme jubilation, je sais pas si on l'apercevra à la lecture, mais si vous en parlez, c'est que peut-être on l'aperçoit un peu. Moi, je n'étais pas dans la dramaturgie permanente au moment où j'écrivais ça. Par exemple, le personnage de Cornelis, pour moi, c'est un personnage, j'ai presque honte de le dire, mais j'ai de l'empathie pour lui, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Il a été décrit, à chaque fois qu'on a parlé de cet événement, on l'a décrit comme un démon absolu. Et moi, je trouve que dans son parcours, il a aussi quelques raisons d'avoir sombré cet homme-là. La perte de son enfant, de sa femme, de ses biens, enfin, etc. Il a vraiment souffert. Il n'est pas seulement quelqu'un qui est né par le mal. Le mal lui est tombé dessus aussi, quoi. Et j'adorais aussi, à un moment donné, ne pas être moi-même l'instrument de Cornelis. J'aimais qu'il soit aussi mon instrument. Et donc, je trouvais que c'était bien que je le ridiculise de temps en temps et que je le fasse se faire lyncher, je le fasse passer d'une situation grotesque à une autre. Et j'ai dans mon écriture, c'est pas nouveau, un côté un peu burlesque de temps en temps. J'aime bien faire confiner les deux, la tragédie et le burlesque. C'est quelque chose qui était déjà présent dans Orphelin de Dieu, mais qui était présent dans tous les livres, finalement, que j'avais écrits jusque-là. Et là, ben, c'est complètement Hieronymus qui porte cette charge-là. Il a une gravité, il a un aspect sombre, il a des côtés qui nous permettent de réfléchir sur la nature la plus sombre de l'homme. Mais il a aussi quand même une charge comique, quoi, pour moi. Je vais pas révéler les choses, mais jusqu'à son exécution, pour moi, il est en représentation. Il se met en scène. C'est son théâtre, finalement.
Une dimension bouffonne.
Oui, c'est un bouffon. Ouais, c'est ça.
Vous citez Shakespeare en exergue, et on pense aussi beaucoup aux bouffons shakespeariens.
Oui, les Gravediggers qui sont dans l'acte 5 de Hamlet, notamment. Mais c'est très étonnant. Bon, moi, j'ai traduit Hamlet en Corse l'an dernier. C'est pas encore édité, mais ça le sera. Mais j'ai donc assez fouillé cette pièce-là. Et j'ai aussi aidé un ami qui traduisait à ce moment-là La Tempête. Donc la tempête m'a beaucoup inspiré pour l'entrée dans le roman, dans Massacre des Innocents. Le premier chapitre démarre avec les mots de la tempête de Shakespeare. Et je croyais dans ma tête que c'était la seule référence à Shakespeare que je m'étais autorisé. Et puis il y a un chapitre qui s'appelle Breda, où à un moment donné, Weberice et Otter Smith, son ami, ils sont jeunes.
Deux personnages qui ont été naufragés eux aussi du Batavia.
Tout à fait. Et ils sont dans les tourbières. Ils sont en train de creuser dans la tourbe pour le compte de la ville de Groningen, je crois. Et à un moment donné, ils découvrent un homme des tourbières. C'est ces cadavres qui ont été desséchés. Ces cadavres de gens sacrifiés il y a des siècles et qui ont été desséchés dans la tourbe, hein, qu'on retrouve de temps en temps. On en trouve en Irlande. Moi, j'en ai vu pas mal en Irlande, dans les musées, pas en creusant la tourbe. Mais on en trouve à peu près partout en Europe du Nord, et notamment aux Pays-Bas. Et donc, il y a Weberice, qui est pour moi l'autre personnage central. Enfin, il y en a trois, hein, mais il y a Lucrezia aussi. Mais qui est l'autre, le pendant positif, je dirais, de Géronimus, discute avec Otter Smith à propos de cet homme des tourbières. Et là, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est quelque part un écho à la scène de Yorick, quand Hamlet parle du crâne du bouffon, quoi. Hein, il dit, hélas, pauvre Yorick, etc. Et il décrit ce qu'il y a de lamentable, de pitoyable dans la destinée humaine à finir comme ça, dans cet état-là finalement, hein, ce que ça a de grotesque, de burlesque, encore une fois, parce que tout n'est pas que tragédie dans ce que dit Hamlet. Et là, finalement, ben, c'est pareil. Weberice est face à l'homme des tourbières et il parle de ce que l'on est, ce qu'on devient et l'état lamentable de nos destins.
When one has made a decision to kill a person, even if it will be very difficult to succeed by advancing straight ahead, it will not do to think about going at it in a long roundabout way. The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
Get your gun.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre.
Yo, yo. Yo, it's the Samurai Showdown. Samurai Showdown.
Hey, DTN, how dare you challenge me? You will die for the tip of my sword today. You're too anxious. Watch your name come.
Yo, it's born, born, young lord, raise your swords. 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 Yo,
hurling from the slums of Shaolin, golden claw talent, twirling one swirl of the fatal sword, split your Allen. Ruth, killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, shakes direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off a slinging sword slash, with the force of being crashed in your dashboard. With no airbag, he drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lot, lick a shot. Respect the bloods and crips a lot. Plus the guard from Watts sagging in the seat. Plastic moon beats. Trying to plot his next hit. He took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. If kept his mind focused, meditating position half lotus. Avid sport novas couldn't match his magnum opus. Deluxe stroke. Sun moved like a ghost. Struck in an instance, unnoticed like a lamppost. Radar shot precision, gunfire explode to his clips unload. It's the samurai code. It's born, born, young lord, raise your sword. It's born, born, young lord, raise your swords. 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 Time for everyone to go record. It's born, born, young lord, raise your sword. Time for everybody to go accord. Crept in silent to still win. Chrome silencer screwed on tight. Kept the gunshots to sealed in. We attack full-fledged. With Chicago poor red, bandanas tied tight around our heads. Swing with the force of a sledge. Single wedge, stainless steel blade, chop the wedge to this analog derelict's head. Who even thought that he could go against the truth and the gods and fall back from the will of Allah? You'll be facing the firing squad of 1,000 archers out to mark you. The milk-time Scully King, box bullets like jelly beans. Birds in my nest resting up on the telly scene. Murderous rap track to me, it's legal felony. Can't accept what you analog cast be telling me. I get the verbal weapon, won't hesitate for 1 second to break your back like Big Jack from Tekken. It's born, born, young lord, so raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords.
Quand on voit un assiste ou quand on a ou qu'on pense à l'humiliation de l'autre, c'est insupportable. On est pris d'un désir soi-même d'humilier. On est affolé par cet engrenage de violence que ça crée. Il est probable que, ou il est possible, je pense que le capitaine Dreyfus, le jour de sa dégradation, pouvait, par le sentiment de son innocence, avoir le sentiment de sa dignité face à l'injustice atroce dont il était victime. Mais quand on voit l'illustration du petit journal ou qu'on pense à la dégradation Dreyfus, on ne peut pas y penser de sang-froid. On a des envies de meurtre.
Marc Biancarelli, on écoute ici la voix de Michel Zinc qui parle de la notion d'humiliation. Et il y a un certain nombre de scènes qui relèvent de l'humiliation dans Massacre des Innocents. On a évoqué la figure de Cornelis qui, lui, a passé une vie d'humiliation. Mais finalement, un certain nombre de personnages, on peut dire que c'est des humiliés, tous ces gens qui étaient sur le bateau. Je pense notamment à Lucrezia qui, elle, sur le bateau, vit une scène qui n'est pas un viol, mais qui est une scène d'humiliation. Quelle importance ça a pour vous, ce sentiment-là ?
Mais c'est quelque chose qui doit relever de l'effroi personnel, de la terreur profonde. C'est la perte de dignité, d'intégrité physique, de la négation de ce que l'on peut être, etc. Et Lucrezia, oui, c'est un des personnages qui subit énormément ce poids-là dans le roman. Mais c'est ce qui en fait aussi, pour moi, la plus grande résistante du roman. C'est elle qui est la vraie héroïne dans le sens où c'est elle qui apporte la victoire. Et elle est allée bien bas pour connaître ça. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais très souvent c'est un thème qui est revenu dans ce que j'écrivais. Le thème des humiliés. Mais je crois que c'est quelque chose qui a à voir avec la perte de ou l'impossibilité de la parole. Et de se sentir oppressé ou opprimé. Je suis convaincu que il y a un lien avec ça. Les images d'humiliation dans l'histoire, qui sont les plus célèbres, qui fourmillent par les archives cinématographiques ou aujourd'hui sur Internet, ce sont des choses qui m'ont toujours profondément heurté, happé. Et qui m'ont poussé aussi au besoin de parler et d'écrire. Je sais que longtemps je voulais écrire et je l'ai placé de temps en temps dans mes romans sur certains supplices. Voilà. Là, dans ce roman-là, il y a une place énorme au supplice. Parce que ce qu'on vient d'entendre là, c'est assez significatif de ça, je trouve. C'est qu'il y a une part de jubilation très très malsaine, pas forcément que de celui qui fait subir le supplice. Bon, on sait très bien que les gens qui assistent sont les spectateurs, sont souvent transportés par des sentiments d'une contradiction extrême face à ces choses-là. Il y avait cette expérience où des gens devaient appuyer sur une fausse décharge électrique pour torturer des gens qui n'étaient en fait que des acteurs. Et puis les gens appuyaient sur la décharge électrique alors que c'était des kidam, c'était des gens de la vie de tous les jours. On se laisse emporter par ça. On se laisse emporter par ces scènes de violence. On se laisse happer par même la violence de la rue. Moi je sais qu'il y a des scènes de violence de la rue qui ne m'ont jamais quitté, qui sont restées gravées en moi. Et donc, quand on écrit, on se fait l'écho de ça, parce que c'est une grande interrogation sur nous, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vaut, sur ce qu'on vaut, sur notre valeur d'être humain, d'homme, de femme. Voilà. comment on peut avoir tellement peur de ça et éprouver tellement le besoin que enfin le besoin ou en tout cas l'idée que ça puisse exister autour de nous et parfois même en éprouver du plaisir, en éprouver de quelque chose d'extrêmement morbide, voilà. C'est ces questions-là.
Et le Batavia a été notamment un de ces bateaux qui a pu transporter justement les humiliés, qui ont pu, par l'expérience du bateau, vivre une forme de rédemption, ou en tout cas quelque chose d'une vie nouvelle.
Oui, il y a une dimension de rédemption parce que eux-mêmes ne sont pas exempts de mauvaises actions ou d'un passé parfois très 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 violent. Weberreich, c'est un personnage comme ça. Incontestablement, c'est quelqu'un qui a été torturé, tourmenté par le mal. Mais ce sont des questionnements qui sont au-delà de la littérature pour moi. Est-ce qu'on peut réparer le mal ? Les réponses sont difficiles, on peut poser des questions, mais les réponses sont toujours extrêmement difficiles, voilà.
On a l'impression, en voyant après aussi tout le parcours de tous ces personnages, qu'il y a quelque chose de la violence de l'Occident, là, qui se décharge aussi. Et que la violence que lui exerce sur cette île est en miroir de la violence qu'exerce, par exemple, l'entreprise coloniale hollandaise, un peu partout, et au sein de sa propre société.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que finalement, c'est tout le théâtre des colonies et des abrolos qui est quelque part le reflet des démons intérieurs de l'Occident et de la violence de l'Occident. De la sauvagerie de l'Occident à aller imposer des règles implacables à l'autre bout du monde. Il y a notamment le personnage du gouverneur Cohen qui apparaît très peu dans le roman. Il apparaît dans une scène, mais pour moi, c'est une scène qui est fondamentale de ça, justement. Alors, Géronimus solde des choses, lui. Lui, il solde des choses par une espèce d'effet miroir. Qui se joue dans les abrolos, s'il solde un passé de tourment dans une société en guerre. C'est le cas aussi pour Weberreich. Il a quelque part une partition à jouer par rapport à toutes les horreurs qui ont été commises alors qu'il était en Europe. Mais Cohen, lui, il est le prolongement même de la logique de l'Occident, si vous voulez. Il explique même les détails au nom de quelle cause, c'est-à-dire la réussite commerciale. Aujourd'hui, on parlerait de finance ou de marché. Il énonce aussi toute la supériorité des Occidentaux sur les peuples indonésiens, indiens, qu'ils sont en train de coloniser et de massacrer même parfois, avec des visions très très racistes, en utilisant des troupes auxiliaires. Là, ce sont les Japonais. Mais en d'autres cas, ça aurait été d'autres peuples. On connaît très bien ça dans le système colonial. Utiliser les uns contre les autres, les faiblesses des uns contre les autres, etc. Les Kurdes contre les Arméniens aussi, dans certaines logiques impériales. Ce sont des choses qu'on... Les Écossais contre les Irlandais. Ce sont des choses qu'on a toujours connues. Et Cohen est celui qui définit quelque part cette cause-là, cette raison d'être-là de l'Occident supérieur. Les mots ont changé, mais les vocations des empires et des puissants, je ne suis pas sûr que tout cela ait réellement changé.
C'est aussi l'époque où il y a un certain nombre il y a des mercenaires. Et par exemple, Eyes apparaît comme une figure un soldat, on ne sait pas, qui travaille pour des armées différentes et qui circule comme ça. Et oui. Qui donc est dans une période où la violence qu'il exerce, en tout cas, est une espèce de violence intermittente. Et que cette intermittence-là peut rendre fou. Il y a quelque chose de cet ordre.
Ben, en tout cas, ça va être une partie. Ça va justifier une partie de son errance à un moment donné, à Weberreich lui-même. C'est-à-dire que cette valeur marchande du soldat au XVIIe siècle. Elle est évidente, à tel point que des mercenaires pouvaient se trouver dans un camp puis dans un autre. C'était des armées privées plus que des armées nationales. L'État-nation, il a pas la même cohérence au XVIIe siècle qu'il n'aura un siècle plus tard ou deux siècles plus tard, bien évidemment. Mais on est dans une espèce de laboratoire de ce que seront de ce qu'est la guerre moderne, quelque part, et puis de ce que seront les entités politiques et nationales à venir. Voilà, il y a des puissances qui émergent. On en parlait, on disait les provinces unies, mais il y a la France aussi, et c'est Louis XIV à ce moment-là, qui est encore, le grand leader penseur d'une nouvelle nation très forte. Hein. Mais ces choses-là se construisent dans une espèce de laboratoire où il y a un émiettement, où il y a un morcellement très fort de l'Europe. Et donc le mercenaire, c'est le témoin aussi de ça. C'est l'instrument, bien sûr, de la guerre, mais c'est aussi celui qui passe d'une ville à l'autre, d'une frontière à l'autre, d'un camp à l'autre en permanence. Dans les armées hollandaises, il y avait des Anglais, il y avait des Prussiens, il y avait des Allemands, il y avait de tout, quoi. Voilà. Et on retrouve toutes ces composantes d'un bouillon de culture militaire, quoi. Et politique, j'ai envie de dire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ici, c'est moi, le traître. Il n'y en aura pas d'autre. Je veux que l'on sache que quiconque penserait à déserter sera coupé par moi en 98 morceaux. Et nous piétinerons tous ces morceaux jusqu'à ce que ce qu'il en reste ne puisse servir qu'à peindre des murs. Quiconque prendra un grain de blé ou une goutte d'eau de plus que sa ration devra pourrir dans une prison pendant 155 années. Suis-moi, Aguirre, je veux que les oiseaux tombent des arbres de la forêt. Je vous dis que les oiseaux tomberont des arbres de la forêt. Je suis la colère de Dieu. On me regardera partout où je passerai et on tremblera. Quiconque me suivra le long du fleuve aura des richesses immenses. Quiconque désertera.
Marc Biancarelli, on écoute un extrait de Aguirre ou La colère de Dieu, le film de Werner Herzog. J'ai immédiatement pensé à ce film en lisant Massacre des Innocents.
Ben, c'est plutôt flatteur, merci alors, parce que c'est un des grands, grands films qui m'ont fasciné quand j'étais plus jeune, oui.
Dans la figure de Cornelis, il y a aussi quelque chose de cet ordre, la démesure de quelqu'un très très éloigné de la civilisation, mais qui en même temps en est le produit, et qui se met à exercer une forme de tyrannie. Complètement délirante.
Complètement, il y a un côté Aguirre chez Cornelis. Je trouve que c'est vrai. Je n'y avais pas spécialement réfléchi, mais c'est une espèce de figure de style qui est tout à fait comparable. Oui.
Et c'est quelqu'un à qui finalement on donne un royaume, à qui échoit quelque chose dans cet archipel qui est de l'ordre du royaume, du terrain de jeu, où il pourra faire ce qu'il voudra.
Oui, ben c'est la grande expérience de ce monde à conquérir au XVIIIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, ou même au XVIe pour Aguirre. Et donc, à un moment donné, on a juste oublié qu'il y avait des humanités qui étaient les jouets de ces grands puissants, ou de ces puissants petits pieds, plutôt. Alors moi, je suis souvent plongé dans ces lectures-là. J'ai toujours beaucoup lu sur Cortés, sur Pizarro, enfin l'Eldorado. Les grands conquérants, de manière générale, sont des personnages qui m'ont toujours intrigué du destin impossible aujourd'hui à travers ces aventures-là. Je pense qu'il est toujours bon de se replonger dans la dimension de ceux qui ont subi, quoi. Il n'y a pas que une dimension lyrique et romanesque il n'y a pas que la geste des conquérants, voilà, il y a aussi l'effroyable destin de ceux qui en ont été les victimes.
Il y a aussi une dimension, bah justement, d'autant plus terrifiante, parce qu'elle est un peu ridicule quand Aguirre dit « Je vous condamne à 155 ans de prison si vous mangez un grain ou une goutte d'eau en plus, ou buvez une goutte d'eau en plus », presque ubuesque. Et il y a de ça aussi chez Cornelis, une figure un peu de roi-enfant méchant, qui s'incarne à un moment donné dans la lutte qu'ils organisent avec Weber Eyes, qui est de l'ordre de la bataille, la guerre civile des enfants. Il y a une dimension presque enfantine, j'ai trouvé. Ils construisent un fortin.
Oui, complètement. Mais moi, je voulais aussi...
Ils jouent à faire la guerre.
Alors, ce qui est très, très étonnant, c'est que ça, pour le coup, c'est assez historique. J'ai inventé peu de choses, moi, là-dessus. J'ai voulu quand même qu'il y ait, je voulais m'éloigner du roman historique, mais je voulais qu'il y ait les éléments de la vraie histoire. Et le fortin, c'est vrai, cette espèce de guerre des boutons à coups de bâtons et de masses et de pierres.
Catapultes
qui envoient des pierres. C'est vrai, ça a existé. Ils ont fait comme ça. Bon, c'était quand même violent, hein. Ils se mettaient des coups de bâton cloutés sur la tête. Mais c'est vrai que c'est pas des armes, c'est pas 50 000 hommes contre 50 000 hommes. Ce sont des bagarres, quoi. C'est pas des batailles, c'est des bagarres de bandes, de gangs. Et il y a cette dimension-là. Et on défend un bout de territoire complètement fantoche, finalement. Et de manière grotesque en plus, parce que le meilleur territoire, Cornelis ne se l'est même pas approprié. Il a même pas pensé à ça. Mais il lui suffisait d'être sous sa tente et d'imaginer, de délirer en s'imaginant un pirate et en s'inventant un destin de corsaire, ça lui suffisait tout à fait. Voilà, il y a aussi la dimension du délire. Alors chez lui, chez Aguirre, peut-être aussi, je l'imagine bien. Mais chez lui, c'est proprement des bouffées délirantes. C'est proprement à un moment donné un refuge, parce que sa condition, elle est déplorable, lui aussi. Et Aguirre était perdu au cœur de l'Amazonie. Donc à un moment donné, ce sont les rêves fous de gens qui savent que ils doivent se voiler la chute qui les attend. Quoi, voilà.
Merci, Marc Biancarelli.
Merci.
Massacre des innocents, votre dernier roman est publié aux éditions Actes Sud.
You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down.
Par les temps qui courent, quel royaume on fait tomber ?
Celui de la... Mon Dieu, je ne sais pas. Celui de l'éternelle vanité des puissants.
Par les temps qui courent, sur quelle île on va hiberner tout l'hiver ?
Moi, je vais souvent en Irlande et j'y retournerai.
Par les temps qui courent, quel poème ?
Des Profondis de George Strachan.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec la sculptrice Elisabeth Ballet. Ce soir au son, c'était Anthony Thomasson. Lise-Marie Barré était à la réalisation. Oriane Delacroix, Jeanne Aléos et Corinne Amar préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.